Alors, bon matin, bonjour, bonjour sur Zoom. On va t'attendre, Mario. Pour ceux qui sont dans la salle, là, j'ai mis le poster du Camp Brochet sur votre babillard. Alors, vous allez peut-être en avoir un autre, là, mais c'est pas grave, j'en avais quelques-uns. Fait que vous avez les dates des camps de cet été. Vous pourrez prier pour ça. Je vais avoir des sujets de prière plus précis tantôt. Mais c'est bien. On repart une autre saison. Oui, comme ça, ça va? OK. Puis en même temps, j'ai des flyers que vous pouvez distribuer à des contacts. C'est sûr que vous êtes un peu loin, mais il y a quand même beaucoup de gens de Québec qui viennent, et même de plus loin que Québec, là, c'est sûr, qui viennent au camp. Donc, des fois, ils avaient des contacts avec vos enfants ou petits-enfants qui sont dans le milieu, peu importe, ont des contacts aussi avec les chrétiens. C'est vraiment intéressant qu'ils puissent profiter d'une semaine de camp avec des amis chrétiens au Camp Brochet, entre autres, ou ailleurs. Vous avez la villa qui est encore plus proche. Aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui y vont, la Villa du Carmel à Trois-Rivières. C'est aussi un camp qui fait à peu près la même chose que nous auprès des enfants. Donc, je vous invite à en profiter. C'est beau, Mario? Tout est parfait. Merci beaucoup. Alors, je répète, je vous salue à tous. Salut à ceux qui sont à la maison. Ma tournée annuelle du camp, je ne vous cacherai pas que c'est un peu les mêmes objectifs à chaque année. Parler du camp, oui. Vous revoir à l'église. Profitez de cette occasion pour vous remercier de votre encouragement, de votre argent, de vos dons, de vos prières surtout, de votre présence. C'est un ministère qui est important. C'est un gros ministère, oui. Mais qui se fait avec des gens comme vous, comme moi. Donc, on est participants dans cette activité-là. L'année 2024, j'ai quelques photos à vous montrer. Il y a eu beaucoup de monde. C'est des camps qui sont pleins. Ça fait plusieurs années. On est toujours dans ce mode-là, encore en 2025. Et des camps pleins, beaucoup de monde, 700 et plus campeurs. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est notre équipe. Nos jeunes qui viennent travailler avec nous. Vous avez une partie de l'équipe d'une semaine là, qui était là pour entourer les enfants. Ça, ce que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle les moniteurs, les directeurs, les animateurs. Il y a encore un autre groupe plus important qui sont les staffs, les gens dans la cuisine, ceux qui font le ménage. Alors, autour de 40 personnes chaque semaine sont là pour prendre en charge 80-90 enfants. Donc, ça, c'est notre équipe. Ce que je retiens donc de cette belle équipe l'année passée, c'est leur engagement spirituel, leur désir d'avoir un impact dans la vie des enfants. Ils font des choses comme ça pour être proches des enfants. C'est Emma Lébreux ici avec un enfant. Des jeunes qui aiment les enfants, qui sont près d'eux, qui veulent vivre des belles expériences avec eux, qui démontrent un intérêt particulier. Des jeunes garçons qui s'identifient à des leaders, à des plus vieux qui veulent leur tracer une voie dans la voie du Seigneur, un chemin dans la voie du Seigneur. Charles Fréchette, que vous avez probablement déjà vu. Donc, tous des jeunes qui font toutes sortes de choses. Sean Ross ici. Sean me partageait justement comment il avait été encouragé l'été dernier. Il dit, si je devais écrire mon expérience au camp en tant que staff et en tant que moniteur, je commençais par dire qu'il n'y a pas un endroit où je me sens comme au camp. Le fait d'être entouré de personnes qui croient, aspirent à la même vérité que moi, est une énorme bénédiction que le Seigneur me donne chaque année. Personnellement, je crois que c'est un moment qui est plus qu'enrichissant, où j'apprends à connaître mon Dieu et à me connaître aussi. Je n'ai jamais eu autant de belles relations humaines qu'au camp avec des autres membres du personnel. Notre Dieu nous unit. Il nous fait vivre des expériences de vie incroyables. Mais par-dessus tout, Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour la chance qu'il m'a donnée d'être moniteur. Scola était moniteur pour la première année. Je suis infiniment reconnaissant donc pour cette possibilité d'avoir été moniteur. Je veux dire que les miracles existent bel et bien. Le fait de pouvoir être un outil pour Dieu, pour son travail dans le cœur des enfants, est une immense réjouissance. Travailler au camp avec un cœur pour Dieu est une expérience unique qui m'a grandement rapproché de mon Sauveur et qui m'a permis de passer des moments merveilleux avec mes amis et les campeurs. C'est une bénédiction donc de travailler pour le Maître de l'univers. Ça, c'est un petit gars de 17 ans qui a vécu cette expérience-là l'été dernier et qui a vécu, comme il témoigne, des choses incroyables avec Dieu, avec ses campeurs, parler de Dieu, les voir, les yeux allumés, puis comprendre l'Évangile. Alors, c'est ça que ce jeune homme a vécu. On se plaît à parler de Dieu à nos enfants. On ne se cache pas. On a nos temps de chapelle, nos temps d'encouragement avec eux. C'est un travail spirituel qui se fait, comme je dis souvent, auprès des campeurs, auprès du staff aussi. Vous avez un garçon ici qui était avec nous l'été dernier sur le staff. Alors, sur le staff, ça veut dire qu'ils font des choses comme ça. Ils travaillent, ils font le ménage, ils font le lavage des toilettes, vaisselle. Puis j'ai un témoignage aussi d'une jeune fille qui est sur le staff depuis plusieurs années. Et puis, à ma connaissance, elle n'a jamais été monitrice. Elle ne veut pas être monitrice. Elle veut rester sur le staff. Puis voici ce qu'elle dit. Je peux dire qu'au camp, j'ai développé des amitiés chrétiennes qui dureront. J'ai développé des liens serrés avec des gens qui aiment le Seigneur. Et cela est une source d'encouragement quotidienne. De plus, le camp est une façon de servir très concrète, où on peut voir devant nos yeux les grâces que Dieu accorde et comment il agit à travers nous et à travers les campeurs. Ce qui m'a personnellement fait apprendre à mieux connaître Dieu. Ensuite, les méditations quotidiennes et intensives, je ne savais pas qu'elles étaient intensives, nous permettent d'apprendre en profondeur sur Dieu et de se poser des questions qui amènent à de profondes réflexions. J'ai énormément appris sur Dieu au travers des temps de partage et de discussion. Pour finir, je dirais que c'est lors de ces moments, de travail les plus difficiles et fatigants que j'ai eu le plus de plaisir à servir Dieu et que je me suis senti le plus proche de lui. Alors ça, c'est une jeune fille qui est avec nous depuis plusieurs années, qui apprécie ses temps. Ils vieillissent, là, ils sont rendus à plus de 20 ans, puis ils travaillent, mais ils disent, garde, ils disent, c'est sûr que je vais au moins une semaine cet été, parce que je ne suis pas capable de passer un été sans venir au camp. Parce que ils voient Dieu agir. Ils ont une relation avec Dieu. Ils voient Dieu agir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas perdre. Alors, si c'est le cas, c'est les genres de choses qu'on vit avec nos jeunes. On a donc, je répète, l'été passé, c'était particulièrement le hotline, hein, la grande ligne là, que je retiens de mon été. C'est l'engagement spirituel, le sérieux de nos jeunes qui ont travaillé avec nous. Ça, c'est les billes qui vont soutenir le toit de la nouvelle chapelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent au camp. Il y a de l'animation. Il y a beaucoup de jeux. Ça, c'est notre équipe du 10-12. J'ai à droite ma fille, Marie-Jade. Au milieu, c'est mon épouse. Puis à gauche, c'est Mathieu Cox, le fils de David, le petit-fils de M. Cox, qui était ici il y a plein d'années. Alors, de l'animation, des jeux sur la plage, de l'enseignement, tous les jours, tous les matins, un temps de chapelle qui est repris, dont le thème est repris au feu de camp le soir. Ça, c'est un clin d'œil. C'est William, hein? Oui, c'est William. Mais j'ai triché. C'était une photo de 2023. Je n'ai pas de photo de l'année passée. Mais William, vous voyez avec ses chums, là, ben, il était au camp de neige cet hiver, puis j'aurais pu le prendre encore en photo avec à peu près la même genre de photo. Quand il chante, je ne sais pas comment il chante ici, OK? Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas comment il chante ici. Mais quand on chante au camp, ils sont tout le temps pareils, ces quatre-là. Ils se les bras par-dessus les épaules, collés, puis ils chantent des louanges au Seigneur. Ça, c'est William. S'il avait été ici, j'aurais pu taquiner un peu. Celle-là, c'est la plage avec nos jeux. Le temps de cantine, Et l'année passée, on a trouvé un... On a acheté un nouveau jeu, un canon à mousse. Est-ce que vous avez déjà vu ça, un canon à mousse? On a un canon, là, la bec est gros de même. C'est gros de même. On a ça sur un pied. Puis là, ça devait être moi qui faisais ça parce que je me suis amusé à faire ça tout l'été. Alors, quand on sort le canon à mousse sur la plage, les enfants jouent dans la mousse. Alors, ça fait le genre de photo comme ça. On avait un glissade aussi qu'on a installé pour les petits, comme vous autres. Vous auriez pu jouer là-dedans, sur la plage. Et ça, c'est un autre clin d'œil. Je ne sais pas si vous voyez qui est là. En haut, au milieu, avec les lunettes de soleil. C'est les... Tu étais venu porter les William, puis t'as dit ta petite fille aussi. Alors, c'est des photos de 2023 que j'ai trouvées pour faire un clin d'œil avec vous. Donc, vous êtes capable de venir au Camp Brochet, Sainte-Marie-de-Beauce, là, OK? La preuve. 3 heures d'auto. Pour une semaine, c'est pas si pire. Alors, Catherine Savard, qui, l'année passée, je parlais de ces gens-là, Catherine et François, qui sont des collaborateurs, qui ont en bonne partie remplacé Renaud et René, qui ont été avec nous pendant des années de la Rive-Sud. Alors, Catherine et son mari sont toujours avec nous et ont travaillé avec nous tout l'automne passé sur le projet de la chapelle. Alors, c'est vraiment agréable d'avoir des collaborateurs maintenant qui sont là, qui prennent tranquillement, nous appuient dans notre travail. Beaucoup. Catherine va appuyer beaucoup Suzanne cet été. C'est une technicienne en éducation spécialisée, donc elle est bien formée pour travailler avec les enfants. Elle va faire l'enseignement du 7-9, donc pour notre camp 7-9 ans. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, les enfants, même les adultes, ces jeunes-là vous attendent pour passer l'été avec nous, une partie de l'été. Donc, vous êtes les bienvenus. Parler du Camp Brochet, sans parler du projet de la chapelle avec lequel je vous casse les oreilles depuis déjà 2 ans, ça va faire la troisième, ce ne serait pas possible. Donc, je vous fais une mise à jour du projet. Nous avons débuté dès l'été dernier, à commencer à enlever des planches pour montrer que c'était fini, la vieille chapelle, c'est fini. On avance dans notre projet. On avait eu des fonds suffisants pour débuter. Pas pour compléter, mais pour débuter. Donc, j'ai dit, on commence. Alors, à l'automne, on a débâti la chapelle, la pelle mécanique dans bâtisse. On a travaillé environ une semaine et plus, même parce qu'on a tout enlevé ce qu'on pouvait enlever avant, là, évidemment. L'acier, les fils électriques, etc. Mais il n'y avait pas de plomberie, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, il n'y avait pas de chauffage. Donc, c'était assez simple. C'est quasiment une cabane de bois, isolée. Là. Et à l'automne, après la démolition, bien, on a préparé le terrain pour la suite. Alors ça vous montre un peu l'emplacement où est la nouvelle chapelle. On a travaillé avec encore là des gens qui sont beaucoup bénévoles. Dans le trou, c'est un jeune homme de l'église de Chicoutimi, Alexandre Petit, qui avait emprunté je ne sais pas trop comment ça s'appelle, là. Il me l'a dit, mais je ne m'en rappelle plus, là. Le poteau qu'il y a dans les mains, là. Pour indiquer l'emplacement des formes exactement, les niveaux et tout. Alors ça, c'est tout été fait avec des gens qui nous ont prêté des équipements. La pelle mécanique en arrière, c'est une pelle qui nous est prêtée avec un gros camion, parce qu'on a sorti beaucoup de matériel. Ça, c'est le matériel qu'on a sorti pour faire nos fondations à l'automne. Alors ça, c'est une autre pelle mécanique qui est là. Et en octobre, c'est les fondations qui ont commencé. On avait tous les permis, toutes les autorisations, après plusieurs semaines, presque plusieurs mois d'attente et de tractation, de négociation, de discussion. C'était quand même agréable de faire ces choses-là, dans le sens que c'était stressant, là. J'étais super stressé. Mais la ville était collaboratrice. Ils nous ont donné des règles, mais qu'on pouvait respecter. Donc, on s'est organisé pour les respecter. Fin octobre, on avait ça. Alors, ça, c'est les fondations de la nouvelle chapelle. Vous avez la salle dans le fond, vous avez le hall d'entrée. À droite, c'est un sous-sol avec le costumier. À gauche, c'est la garderie. Vous allez avoir 2 étages au-dessus de ça. Donc là, c'est creusé. Je n'ai pas la photo, mais présentement, évidemment, c'est remblayé. Ça, c'est juste... Il n'y a pas de sous-sol. c'est juste les fondations qui vont porter la bâtisse. Alors, on est rendu là. OK? Nos fondations sont faites. Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe? Les murs, toiture, fenestration, plancher, électricité. C'est ça qu'on fait à partir de fin avril, mai, juin. Les murs sont en dessin actuellement pour fabrication en usine. Alors, tout arrive préfab. Ça va arriver sur des camions. Puis, on a une équipe, un contracteur qui va faire l'installation de ces choses-là. Priez pour que tout se passe bien, parce qu'on a besoin de ce bâtiment-là pour le 24 juin, pour l'été. Alors, on veut que ces choses-là soient faites pour le 24 juin. On s'entend que ce ne sera pas terminé. À l'automne, on va poursuivre sur la finition extérieure. Finition intérieure, on va voir qu'est-ce qu'on a comme argent, je suis très honnête. C'est une question de beaucoup d'argent. Actuellement, on a dépensé 300 000. On a 400 000 à dépenser ce printemps. On a l'argent pour ce printemps. Le 400 000, on l'a. Et après ça, bien, on voudrait avancer à l'automne avec un autre 100 000 qu'on n'a pas, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on a 700 000 actuellement de soit de dépenser ou soit d'argent pour un projet estimé initialement à 1,2 million. Ça va coûter, même si on ne voudrait pas, ça va probablement coûter 1,2 million. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous avez vu la grandeur du bâtiment avec les règles. Écoutez, là, à chaque fois qu'on fait une modification au plan, c'est les ingénieurs en structure, l'architecte. Alors, c'est ça. Il y a juste en plan, puis en dessin, il y en a pour 100 000 $. C'est comme ça. Donc, on s'en va vers ce projet-là pour les prochains mois, prochaines semaines, déjà à court terme. Puis après ça, 2025, 2026, on va poursuivre. Donc, vous allez avoir encore des photos, les amis, de la chapelle. Sujet de prière. Alors, ça, c'est pour vous. On prie pour nos équipes de directeurs et de moniteurs. Donc, on prie pour ces gens-là qui sont directement impliqués auprès des enfants. Alors, vous avez entendu le témoignage de Sean Ross tantôt. Alors, ces gens-là qui sont impliqués auprès des enfants ont besoin de nos prières. Nous, on prie pour eux tout le temps. Je ne rentre pas dans ces discussions-là, ça serait trop long, mais il y a toute une équipe qui prie pour eux. On prie pour nos besoins aussi. On vous demande d'avoir ça à cœur. Les cuisinières, nous en manquent. Certains moniteurs aussi dans des camps, monitrices, là, c'est pas mal, mais il nous manque encore quelques noms. Et aussi infirmières. On attend des réponses à ce sujet-là. Donc, avec nos camps d'enfants, on aime bien avoir des infirmières ou infirmiers. On prie pour nos enseignants qui ont une tâche aussi, évidemment importante d'apporter le message de l'Évangile. On a tous on a nos enseignants pour tout l'été, sauf le 18 et plus, la fin de semaine des jeunes adultes. Alors, priez pour ça, qu'on Dieu les inspire. Sagesse dans la réalisation de nos projets, évidemment, de la chapelle, pour notre témoignage et notre impact auprès des campeurs. Si on est là, si on fait ce qu'on fait, c'est pour avoir un impact dans la vie des enfants, dans la vie de nos campeurs adultes même qui viennent. On a tellement de discussions, tellement d'occasions d'avoir de ces discussions, d'encouragement spirituel avec les gens. Donc, priez pour ça. On a besoin de prière. OK. Ça terminerait la présentation du camp. S'il y en a qui veulent le quitter, c'est maintenant le temps. Si les enfants veulent descendre. J'aimerais qu'on se parle ce matin jusqu'à 1h20, environ une demi-heure, de nos choix, l'importance de nos choix dans la vie. Et j'aimerais, pour ce faire, regarder un exemple dans l'Ancien Testament, l'exemple d'Abraham et Lot, au chapitre 13 de Genèse. Alors, vous avez la référence, 13, 5 à 13. Est-ce que vous connaissez l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin » hein? On entend ça souvent. Eh bien, j'ai trouvé une variante à cette expression. L'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. C'est un bon clin d'œil, je trouve, à notre histoire d'aujourd'hui. Parce que l'herbe est souvent, elle peut être plus verte chez les autres, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin? Écoutez, j'étais au sud de la Californie il n'y a pas longtemps. Puis j'ai été frappé de voir. J'étais dans une église, puis c'était super beau. Il y avait un beau parc pour les enfants. Et tout autour du parc, il y avait un gazon magnifiquement vert. Puis dans les collines autour, quand tu regardais les collines, hey, c'était pas beau, là. C'était brun, c'était sec. Quand on pense au feu de la Californie, là, j'ai compris pourquoi il y avait des feux, là. C'était un désert presque. Puis tu regardes ça, puis là tu dis, hey, c'est bien beau ce gazon-là. Fait que je me suis approché du gazon. Puis évidemment, c'était pas du vrai gazon. Je dis, soit qu'il l'arrose au maximum, mais c'était du plastique. C'était un gazon artificiel. Alors, je trouvais ça drôle de relire cette phrase, cette réflexion, après ce que moi-même j'avais vécu. Et je trouve que c'est un clin d'œil, comme j'ai dit, à notre histoire d'aujourd'hui. Elle se passe, notre histoire, après que Abraham soit revenu d'Égypte. Il avait quitté Israël, il avait quitté le pays de Canaan suite à une famine. Et on voit dans notre histoire que les biens de Lot sont très importants. Les versets précédents, on ne les a pas lus, mais ils nous ont montré qu'Abraham était revenu avec beaucoup de biens aussi. Puis on comprend assez vite que les bergers sont nombreux, que les brebis sont nombreuses, donc ils ont des troupeaux importants, beaucoup de biens, tentes, etc. Et qu'il n'y a pas assez de place pour les deux, au point que il y a des disputes qui débutent entre les bergers des deux clans. Dispute pour l'eau, dispute pour les endroits de pâturage. Puis on peut comprendre assez bien que dans ces pays-là, l'eau est rare. Puis d'ailleurs, ce n'est pas la seule place que des disputes pour des puits, pour des endroits de pâturage vont avoir. Ce n'est pas la seule place qu'on va voir ça dans Genèse. Au chapitre 26, avec Isaac, ces bergers vont, eux aussi, être en dispute avec les bergers des peuples qui sont là pour des endroits de pâturage et pour des puits. On apprend aussi dans notre texte que Abraham et Lot ne sont pas seuls dans ce territoire. Il y a des Cananéens, il y a des Phérésiens qui vivaient là avant eux. Donc, quelque part, nos amis sont un peu des squatteurs de la place, là. Hein? C'est pas eux qui étaient là en premier. Alors, ils sont, évidemment, il y a déjà des gens qui occupent la place. On peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de place qui reste. Puis, deuxièmement, ces gens-là sont des observateurs. Ils voient qu'est-ce qui se passe entre Abraham et Lot, entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils voient. Et on peut penser déjà au témoignage de Lot et d'Abraham. Alors, face à cette situation, comment Abraham va réagir? Alors, je vous ai mis ici sur l'écran mes propres observations du texte. Comment Abraham réagit? Premièrement, il prend l'initiative. Il n'est pas passif face au problème qu'il vit. Il ne se dit pas « le temps va arranger les choses ». Hein, on va laisser s'occuper de ça eux-mêmes. Il dit non. Il prend l'initiative pour régler le problème. Il est conscient que c'est une situation aussi qui n'est pas acceptable. Il va dire à Abraham, il va dire pendant à Lot, hey, on ne peut pas rester comme ça. C'est pas bien qu'il y ait une dispute. Au verset 8. Il va faire référence aux liens familiaux. Nous sommes frères. Hey, c'est pas correct ce qu'on vit. Ce qu'on fait, on est des frères. C'est intéressant qu'il utilise le mot frère. Il ne se place pas en autorité au-dessus de Lot. Il ne dit pas, « Hey, jeune, c'est moi qui est le vieux. Je suis l'oncle. Je suis plus vieux que toi. Tu me dois honneur, respect. » Il propose une solution. Alors, non seulement il est actif, il prend l'initiative, mais il amène la solution. Je suis persuadé qu'il était conscient aussi qu'il faisait partie du problème. Il y a une dispute entre tes bergers et mes bergers, et entre moi et toi. Et évidemment, ce que vous avez certainement remarqué, il laisse Lot choisir en premier. C'est un défi, bizarrement, peut-être, que vous trouvez. C'est un défi dans ce texte qui nous parle d'un sujet qui n'est pas fréquent dans la Bible, l'abondance. C'est à cause de l'abondance, les amis, qu'il y a une dispute entre les deux clans. Ils ont trop de biens, ils ont trop d'affaires, ils ont trop de tentes, ils ont trop d'argent. C'est fou, hein? L'abondance. Puis l'abondance, c'est aussi un sujet qui peut mettre à l'épreuve. Bien, c'est plus qu'un sujet, c'est quelque chose qui met à l'épreuve les gens. Et dans notre histoire, elle met à l'épreuve l'engagement d'Abraham envers les promesses de Dieu. OK? Comme la famine du chapitre 12 avait mis à l'épreuve l'engagement d'Abraham envers ses promesses, les promesses de Dieu, l'abondance ici va mettre à l'épreuve Abraham. C'est plus que mettre à l'épreuve la responsabilité d'Abraham, l'engagement face aux promesses de Dieu, mais ça met à l'épreuve aussi son caractère. C'est qui? Comment il se tient debout, ce gars-là? Abraham. Et sa démarche, dans ce chapitre, nous montre un caractère qui est motivé par des considérations. J'utilise le mot éthique et non économique. En fin de compte, Abraham ne pouvait pas agir avec plus de grâce, plus de bonté, plus de considération pour Lot qu'il l'a fait. Bien, dans notre histoire, on l'a dit, il fait passer Lot en premier. Il fait passer les intérêts de Lot avant les siens, quand l'ordre normal des choses, l'ordre culturel des choses, aurait été que ses intérêts passent en premier, les intérêts d'Abraham. Pourquoi? Il est le plus vieux, il est le patriarche. Le jeune lui doit respect, honneur. Dieu a parlé à qui? Il a parlé à Abraham. « Hey, garçon, Dieu m'a parlé à moi. Il ne t'a pas parlé à toi. C'est moi à qui Dieu a fait les promesses de bénédiction, les promesses d'un pays. Ce n'est pas à toi, jeune homme. Le pays, c'est à moi que Dieu l'a promis, pas à toi. » Et pourtant, Abraham laisse toute la place à Lot. Donc, il recherche la paix. Il recherche à régler un conflit entre les bergers et certainement un conflit entre Lot et Abraham. Parce que, je reviens sur le verset 8. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. » Il ne commence pas à dire qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nos bergers, il va le dire. Mais il commence à s'identifier au problème. La dispute, c'est entre toi et moi. Toi et moi. C'est entre nous deux, la dispute. Alors, voyez-vous, il fait partie de ce problème. Mais il recherche la paix. Il veut trouver une solution. Le principe qui l'anime ici, c'est bizarre, c'est l'unité. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous deux. On est des frères. Il veut garder l'unité familiale, le respect mutuel. Et pour ça, ils vont devoir se séparer. La volonté de Dieu souveraine se manifeste comme ça. Un commentateur a dit, concernant les richesses, qu'elles nous rendent apathiques. Je vais lui chercher dans le dictionnaire, là. L'apathie, c'est être un peu amorphe, ne pas avoir d'énergie, de ne pas vouloir réagir, être indifférent. On va utiliser l'expression « secouer son apathie ». Réveille-toi. C'est un peu ça. Alors, l'apathie, c'est ça que ça procure, que procure la richesse. Et comme j'ai dit tantôt, elles peuvent avoir la même influence, le même impact, les mêmes conséquences que la famine. La famine avait fait quoi pour Abraham? Elle lui avait fait quitter le pays de Canaan pour le pays d'Égypte. Elle lui avait fait abandonner les promesses de Dieu qui étaient pour lui, pour un autre pays. Ici, l'argent, les richesses. Alors, elle a pu dire quoi? Je reviens sur un verset de Proverbe qui dit, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. » Je ne te renie. Ils ne disent, qui est l'Éternel? Dans l'abondance, on dit quoi? Je n'ai pas besoin de toi. Je suis autosuffisant. J'ai un gros compte de banque. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de Dieu. Proverbe 30. Que dans la pauvreté, je ne dérobe, je vole, que je m'attaque au nom de Dieu, que je répudie d'une certaine façon. J'oublie le nom de Dieu. Je lui fais mal parce que je brise son honneur. Je vole. J'ai commis un péché. Ce qu'on voit d'Abraham au chapitre 12, lorsqu'il a quitté, je parlais de la famine tantôt, on a vu un homme qui, vous avez vu probablement dans vos lectures, un homme qui était faible, un homme qui était menteur, qui était irrespectueux de sa femme. Il a fait passer sa femme pour sa sœur. Il l'a mis dans le trouble. Un homme qui a été un mauvais exemple pour ceux qui l'entouraient. Les Égyptiens vont être en colère après lui. Quand ils vont lui dire de partir, là, c'est vraiment très, très lourd comme sens de mots. Mais au chapitre 13, on voit un homme qui est vertueux, un homme qui est attaché aux promesses de Dieu et non au bien de la terre, qui donne à Lot l'avantage, hein, à 100%. Il n'est pas en train de négocier, 100%. Et il s'attend à Dieu pour sa protection et ses promesses. J'ai déjà dit dans une prédication que le passage d'Abraham, ce passage ici nous montre que comment traiter les autres, comment agir en leader auprès des autres. Puis dans notre société, c'est carrément l'inverse qu'on voit. Je ne sais pas si vous allumez un peu, mais on voit quoi? On voit des gens je ne veux pas dire méchant, mais qui cherche à avoir l'avantage, qui cherche à dominer les autres. On va parler de négociations qui soient au minimum gagnant-gagnant, hein, 50-50. On va avoir des responsabilités partagées quand on négocie. Bon, à certains égards, il y a une logique à ça, puis c'est pas fou. Mais ce qu'on voit ici avec Abraham, c'est carrément une autre façon d'assumer un leadership. C'est de faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et c'est ce que Paul nous rappelle aussi dans Philippiens au chapitre 2. Ne faites rien. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est Philippiens chapitre 2. L'exemple du Seigneur Jésus nous montre aussi la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, regardez, faites la même chose. Il s'est abaissé au plus bas pour montrer comment devait agir le Maître. Il a dit dans Marc chapitre 10, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Et je rappelle, « Non pour être servi. » Combien de fois dans nos vies, on veut être servi? Moi. Je veux être servi. Servir les autres, je n'ai pas de problème. Mais je veux être aussi servi. Non pour être servi. Puis, messieurs, rappelez-vous ça. Non pour être servi. Maintenant, comment Lot va réagir? Comment Lot va réagir face à cette offre si généreuse? Probablement que les deux hommes sont sur une colline. On peut l'imaginer assez facilement parce qu'ils sont tous les deux. Il regarde, et au verset 10, Lot lève les yeux. Hein? L'expression « lève les yeux », il regarde autour de lui. Et là, il se met à observer, il regarde. Et là, il fait un calcul dans sa tête très rationnelle. Hein, il fait une évaluation des actifs, là. Il dit, quel est l'endroit qui est le plus profitable pour moi, pour mes troupeaux, pour mes serviteurs? Où est mon avantage? C'est ça qu'il fait. Il est comme les jeunes, il est comme les ados au Camp Brochet, lorsque les plateaux de dessert arrivent. Puis là, il regarde les morceaux qui sont dans les assiettes. Puis là, c'est lequel qui est le plus gros, là, puis ou lequel qui a le plus de crémage, puis, tu sais, c'est ça, hein, on est comme ça. Il regarde ce qui est le plus, où est l'avantage. Il fixe les regards, donc, notre ami Lot, sur la vallée du Jourdain, luxuriante. On a lu comme un jardin, pas comme le jardin, mais comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. C'est magnifique, c'est pas rien, là. Hey, c'est jackpot, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dieu te l'offre. Tu le prends-tu? Hein? Alors, il regarde, il convoite et il va prendre. Je pense que vous voyez un écho à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Genèse 3, verset 6, avec le fruit défendu. Il était beau à la vue. Hein? Elle l'a pris. Ils l'ont mangé, Adam et Ève. Alors, il regarde, il convoite, il prend. La Bible nous dit que la convoitise, elle enfante le péché et elle vient aussi du monde. Au moment où Lot vit près de Bethel, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Bethel? La maison de Dieu. Au moment où Lot vit près de Bethel, il va quitter pour aller mettre ses tentes près de Sodome et Gomorre. Il quitte donc le seuil de l'endroit qui signifie maison de Dieu pour aller au seuil de l'endroit que l'histoire va présenter comme un lieu où les gens sont méchants, pécheurs. C'est un pécheur excessif. C'est ça que ça, le verset 13, les mots qui qualifient les habitants de Sodome étaient mauvais, pécheurs beaucoup. Alors, c'est des superlatifs pour montrer qu'ils étaient des pécheurs énormes, beaucoup. Ils péchaient beaucoup. Et Moïse a écrit ce texte certainement pour ces éléments d'information, pour nous montrer la raison pour laquelle cette région, ces villes vont être détruites. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'au moment où on découvre que c'est du gazon artificiel. Application. Alors, évidemment, nos décisions, à partir de la lecture qu'on fait, nos décisions, on peut voir que elles ont des impacts importants sur nous et sur ceux qui nous entourent. Combien de fois, moi, j'ai vu des chrétiens, des jeunes, comme des moins jeunes, se trouver toutes sortes d'excuses pour déplacer leur tente le plus près possible de Sodome et Gomorre. Et combien de fois ils ne sont jamais revenus. C'est un chemin dangereux, dont les pièges sont nombreux et qui n'apparaissent pas non plus immédiatement. C'est beau, la vallée. C'est beau. Mais il y a des pièges qui nous saisissent. Il y a plusieurs sortes de pièges. J'en ai écrit 7. OK, il y en a peut-être plus que ça, certainement. Mais j'aimerais peut-être souligner, prendre 3 jusqu'à écart pour souligner quelques noms, quelques pièges à lesquels je vous invite de réfléchir. Peut-être que ça vous concerne moins ici, mais ça concerne vos enfants, ça peut concerner vos petits-enfants. C'est des choses à lesquelles vous pouvez réfléchir avec eux. Fréquenter un non-chrétien. Moi, c'est le genre de choses que je vois souvent dans mon ministère. Je travaille avec des jeunes. Fréquenter des non-chrétiens. Connaissez le pattern, peut-être? Il ou elle est intéressé par le Seigneur. Hey, j'y ai parlé de Dieu, puis tout ça le fun. Viens à l'Église. suis des cours d'évangélisation, bonne nouvelle, participe à la réunion quelquefois, viens assez régulièrement, montre un intérêt. Et là, l'amour s'intensifie, il se marie. Ils vont vivre ensemble. Mais les enfants arrivent, le spin de la vie revient, puis là, on les perd de vue. Ils ne viennent plus à l'église. Puis ce qui se passe, bien, écoute, vas-y toi, mais moi, je reste à la maison, j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas besoin d'y aller, je ne me sens pas intéressé par ça, ça ne me parle plus. Et là, les enfants vieillissent, vont à l'école du dimanche avec maman ou papa. Puis là, ça revient à la maison. « Hey, on a appris ça à l'église. Oh, parle-en à ta mère, parle-en à ton père. Moi, tu sais que moi, je ne crois pas tellement à ça. » Quel impact épouvantable pour nos enfants. Les choix qu'on fait ont des conséquences sur nous et sur les autres. Nos enfants, leur présence à l'église, la prière dans la famille, le temps de culte dans la famille, comment on peut vivre ça? Quelle sorte de principe d'éducation qu'on va donner, des principes moraux basés sur la Bible ou celui qu'on voit dans le monde, pile sur les autres, vole les autres, c'est pas mal qu'ils s'en aperçoivent pas, c'est pas grave. C'est pas ça que Dieu nous demande. Et quelque chose d'encore plus grave que ça, quand tu te couches le soir auprès de celui ou de celle que tu aimes, tu ne peux pas t'empêcher de te rappeler que son âme s'en va en enfer. La personne que tu aimes le plus est perdue. Le choix d'un travail, est-ce qu'il va me permettre d'avoir une certaine liberté pour participer au rassemblement de l'Église? Est-ce qu'il va me prendre tellement de temps qu'il va prendre tout mon temps, va m'enlever mes priorités, c'est-à-dire priorités que Dieu me donne, famille, Église? Le choix de nos passe-temps aussi, même genre de choses. Le travail, on le voit moins, on le voit, disons, pas plus ni moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut justifier plus facilement le travail. Il faut que je travaille. Mais faisons attention quand même. Le choix des passe-temps, vont-ils bouffer tout notre temps? Le choix des activités de nos enfants, qu'on fait faire à nos enfants, l'horaire de ces choses-là, qu'est-ce qu'on privilégie? Réunion du dimanche matin. Notre investissement en tant que parent aussi, en tant que grand-parent. Qu'est-ce que vous faites pour aider, motiver vos enfants et petits-enfants à participer au rassemblement de Dieu, d'une façon générale? Vous êtes un peu éloigné à Sainte-Marie-de-Beauce, mais vous avez des groupes de jeunes à Lévis, ça arrive sud, vous en avez à Sainte-Foy, vous avez des enfants, des petits-enfants. Encouragez-les à aller dans ces groupes-là. Et plus que les encourager. Vous savez, ces groupes-là sont souvent le vendredi soir. J'imagine qu'ici, pas mal tout le monde travaille. Puis le vendredi soir, sortir de la maison, c'est plate. Bien, excusez-moi, là, bottez-vous le derrière. Faites l'effort. Donnez des livres à vos enfants. Puis si ce n'est pas vos enfants, ça peut être le groupe de jeunes de l'Église. Vous en avez 3-4 à ramasser. Ce sera peut-être votre contribution de la semaine dans le service pour Dieu. Embarquez dans le char, on s'en va à Québec. Après une demi-heure, participez à votre groupe de jeunes. Je vous ramène à 9h le soir. Changez les fins de semaine, partagez le service, mais c'est une chose. Même affaire pour les camps. Les camps, c'est loin. 1h30, 2h d'un bord, 3h de l'autre bord. Mais c'est des temps bénis pour les enfants. Puis on parle souvent d'âge où c'est névralgique. Hein? C'est important qu'ils soient bien entourés, bien encadrés, qu'ils aient des belles références dans leur vie. Et oui, faites l'effort. Encouragez les jeunes à venir, à aller travailler dans les camps. Ça coûte de l'argent travailler dans un camp, vous savez ça? Parce que le petit gars ou la petite fille, elle ne peut pas travailler dans un dépanneur durant l'été. Le camp va donner un peu d'argent. Il va les nourrir. On va en prendre soin. Mais papa, maman, peut-être qu'il aura besoin de sortir un 1 000 ou un 2 000 piastres de sa poche pour les encourager. Garde, va au camp, je m'occupe de tes études en septembre. Moi, je vous invite à réfléchir à ça. Le choix de nos amis. Ce n'est pas normal que nos meilleurs amis ne soient pas des chrétiens. Est-ce que c'est normal d'avoir des amis non chrétiens? Oui. Mais les amis importants, les amis à qui seront nos confidents, nos appuis dans notre vie, ça doit être des gens qui partagent la même foi que nous. Comment mes filles à moi ont pu profiter d'amis? Je peux vous garantir que je n'ai pas toujours été là, puis maman n'a pas toujours été là pour eux, mais ils ont eu des amis qui ont été fidèles avec eux aussi, et qui les ont aidés, à passer au travers de certains moments de leur vie plus difficiles. On atterrit tout ça. Je laisse une question de réflexion qui fait référence au bien matériel, parce que c'est un des thèmes importants de ce texte-là. Comment, moi, je suis affecté par l'abondance dans laquelle on vit? C'est une discussion que vous pouvez avoir, évidemment, personnelle, réfléchir, mais parlez-en ensemble, en famille, avec vos enfants, parce que c'est des genres de choses avec lesquelles on est confronté. Nous sommes dans l'abondance. Nous, on a une église avec des immigrants qui viennent, puis qui arrivent avec un autre arrière-plan, puis je le rappelle, ça. J'ai dit, vous allez frapper un mur, vous allez voir des tablettes d'épicerie complètement pleines, tout le temps. Je les amène chez Costco, j'ai dit, garde, ça, c'est notre défi à nous. Toi, tu n'en avais pas de ça. Nous, on en a. Tu vas voir c'est quoi, vivez-vous Québec maintenant. Alors, réfléchissez à ça. La fin du chapitre, on ne lira pas, mais il nous montre que Dieu va parler maintenant à Abraham. Il va lui parler, il va le faire venir sur une colline aussi. Puis là, il va dire, « Lève les yeux. » Tantôt, on a lu que Lot avait levé les yeux. Et si Lot nous parle de celui qui marche par la vue, bien, Abraham nous parle de celui qui marche par la foi. Parce que c'est sous l'ordre de l'Éternel que Abraham va lever les yeux. Abraham lève les yeux, il regarde autour de lui. Et l'Éternel va lui dire, « Tout ce que tu vois, je te le donne. Tout ce que tu vois maintenant, je te le donne. » Abraham était prêt à partager 50-50, 50-50, le territoire. Hein? Il avait dit à Abraham, « Alors, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Je suis prêt à séparer ça en deux, moi. » Mais l'Éternel lui dit quoi? Non. Tout est à toi. Tout est à toi et à ta descendance. Il lui rappelle non seulement de regarder, mais aussi d'en prendre possession. Vas-y, marche. Marche sur ce terrain. Il est à toi, verset 17. Et Abraham va déplacer ses tentes près d'Hébron, dernier verset, et là, il va construire un hôtel et il va... un hôtel, pardon, à l'honneur de l'Éternel. Si vous avez déjà lu ce chapitre, je pense que oui, je vous fais remarquer que ce texte qu'on vient de lire est entre deux hôtels. Celle du verset 4, pardon, et celle du verset 18. Deux endroits où Abraham est allé. Deux endroits qu'Abraham a construits. Il s'est construit des hôtels, des lieux physiques en pierre, pour invoquer l'Éternel, pour l'honorer. C'est des bornes, hein, comme un terrain est borné. C'est des bornes qui vont rappeler Abraham que Dieu s'occupe de lui, que Dieu est présent dans sa vie, avant, après, avant des circonstances difficiles, après des circonstances difficiles, avant des circonstances plus agréables, comme plus difficile. La vie d'Abraham est bornée par des hôtels physiques qui nous rappellent aussi des lieux spirituels. nos vies sont également bornées par Dieu. La croix de Dieu, la croix de Jésus est nos bornes, est notre borne. Avant, après, tout commence, tout finit avec Jésus dans nos vies. Il n'y a rien de plus important que notre relation que nous avons avec Jésus-Christ, avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que notre amour pour Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important que le temps que nous passons à lire, à méditer, à prier notre Dieu. Il n'y a rien de plus important dans nos vies que notre relation avec Dieu. Tout commence, comme j'ai dit, avec Jésus. Toute notre vie est avec Jésus. Tout ce que nous faisons concerne Jésus. Toutes nos décisions concernent Jésus. Tout est pour Jésus. Tout est par Jésus-Christ. Puis un jour prochain, très proche, on sera devant lui avec rien d'autre que nos couronnes qu'il nous aura données pour lui donner à lui. Rien d'autre que nos couronnes à déposer à ses pieds. Ne passez pas, s'il vous plaît, à côté de ce qu'il y a de plus important, Jésus-Christ. Prions. Merci, notre Dieu, pour ce temps avec toi ce matin. Merci pour ce temps béni dans l'adoration et dans l'étude de ta parole. Merci, Seigneur, pour l'Assemblée de Sainte-Marie-de-Beauce, pour ses dons généreux, son soutien envers le camp et envers mon ministère, notre ministère familial. Bénis-les, Seigneur, garde-les. Fais-les grandir en toi. Fais-les grandir en présence, en puissance. Bénis-les, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.